Si Dieu me prouvait qu'il existait, s'il se révélait à moi, je croirais en lui. Tu comprends, je peux pas croire en Dieu comme ça, il me faut des preuves, il faut que je sois sûr de ce en quoi je crois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire cela, mais c'est souvent une objection qu'on peut entendre de la bouche de non-chrétiens, de personnes qui se disent athées ou agnostiques, et qui veulent justifier justement leur non-croyance par l'absence de preuves. Est-ce que quelqu'un qui a des preuves croit plus facilement? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec un passage dans l'évangile de Jean, comme d'habitude, et qui traite justement de la rencontre entre Jésus et un aveugle. La particularité du passage d'aujourd'hui, c'est que Jésus est quasiment absent de la scène. Le personnage central de cette scène, c'est quand même Jésus, mais c'est avant tout le jeune homme qui était aveugle et qui a été guéri par Jésus. Alors voyons ce qui se passe quand un miracle, un phénomène paranormal vient troubler la vie d'un petit village. C'est dans l'évangile de Jean, donc, au chapitre 9. Je vais commencer par le verset 1 et je vais assez vite sauter au verset 6. Donc Jean 9, verset 1. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Après, il a une conversation avec ses disciples. Et au verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient, « C'est bien lui !» D'autres le niaient, « Ce n'est pas lui !» C'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait « C'est bien moi !» Alors, on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. « Et lui » demandèrent-ils. « Où est-il » « Je n'en sais rien » répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant, d'autres objectaient. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. » Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme, est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?»« Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. » « Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand. Interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que, par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ? Alors ils se mirent à l'injurier et ils lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes les disciples de Moïse !» Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. « Comment ?» répondit-il. « Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon !» Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. » Jusqu'ici, notre lecture de l'Évangile. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a plusieurs réactions possibles face à l'incroyable. Les premières personnes que nous rencontrons dans cette histoire, ce sont les voisins. Les voisins qui sont dubitatifs. Cette scène des voisins qui entourent et interrogent l'ex-aveugle est plutôt comique. C'est lui. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et l'aveugle qui dit « Si, 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 c'est moi !» On peut imaginer la palabre qui dure très longtemps au fur et à mesure que d'autres voisins ou d'autres passants intègrent le groupe des dubitatifs. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de le voir, cet aveugle. Sûrement assis par terre, à mendier toute la journée, il fait partie du décor, on ne le regarde même plus, on lui donne une pièce quelquefois. Mais là, il est debout et son aspect a changé. Comme l'aspect de quelqu'un qui voit. Il ressemble à l'aveugle de d'habitude, mais dans d'autres conditions. Du coup, on se demande si c'est vraiment lui. Et puis, le plus dérangeant, bien sûr, c'est qu'il n'est plus aveugle, alors qu'il l'est depuis qu'il est né. C'est quand même dur à avaler tout de suite que ce gars ait pu recouvrer la vue comme ça, d'un seul coup. Même si l'aveugle leur raconte plusieurs fois son histoire avec Jésus, même s'il leur dit qui il est, la foule s'interroge sur sa véritable identité. Et d'ailleurs, comme ils n'arrivent pas à trancher, ils amènent l'ex-aveugle auprès des pharisiens pour qu'il donne un avis sur ce miracle fait par ce Jésus qui se met à opérer une guérison un jour de sabbat, jour où bien sûr on n'a pas le droit de travailler. Et ça nous amène au deuxième groupe de personnes qu'on rencontre dans ce passage, les pharisiens hargneux. Les pharisiens, eux, sont beaucoup moins dubitatifs que les voisins. Eux, ils ont décidé depuis longtemps que Jésus ne devait pas être le Messie. Alors, ils interrogent l'ex-aveugle pour avoir des infos intéressantes. Mais lui, bien sûr, il leur balance la vérité et il leur dit que Jésus est au moins un prophète, vu ce qu'il arrive à faire. Et ça, les pharisiens n'aiment pas trop. La réponse de l'ex-aveugle n'était pas la bonne réponse, pas la réponse que les pharisiens voulaient entendre. Alors, ils changent de méthode et utilisent la méthode interrogatoire d'intimidation en règle, On peut imaginer avec la lampe en pleine figure. Dis-nous la vérité. Jésus est pécheur. Il n'influence absolument pas le témoin, comme vous pouvez vous en apercevoir. On peut voir qu'il ne s'intéresse absolument pas aux miraculés, à l'ex-aveugle. Ils veulent qu'on leur dise que Jésus est un méchant, un blasphémateur, un imposteur. Et puisque l'ex-aveugle ne veut pas en démordre, en restant sur sa position, ils deviennent de plus en plus hargneux, de plus en plus agressifs envers notre homme. Et finalement, ils finissent par dire « De toute façon, ton avis, on s'en fiche, puisque tu n'es que péché depuis ta naissance. » Oui, les pharisiens interprétaient sa cécité comme la conséquence de son péché ou celui de ses parents. Donc, au début, il cherche à savoir gentiment. Ensuite, il passe à la méthode plus agressive pour finir avec des injures et autres condamnations. Le troisième groupe de personnes que nous rencontrons dans ce passage, ce sont les parents de l'aveugle, de l'ex-aveugle. Des parents qu'on pourrait qualifier de peureux. Ils ont bien senti, ces parents, qu'il valait mieux rester évasif dans les réponses aux questions des pharisiens. Dans les synagogues, ces spécialistes de la loi avaient déjà commencé à mettre la pression à tout le monde en menaçant d'exclure tout juif qui reconnaîtrait en Jésus le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et être exclu de la synagogue pour un juif, ça signifiait une mort spirituelle, sociale et juridique. Donc c'était quand même pas très très marrant. C'était même très grave. Alors, les parents, ils ont pas du tout envie d'être les parias de leur village à cause de la guérison de leur fils. Alors ils se mouillent pas. Ils disent le strict minimum. Oui, bon, bah c'est bien notre fils et il est bien né aveugle. Après, allez lui demander, hein, il est assez grand pour répondre tout seul. Jolie pirouette, il se décharge sur le fiston. Pourtant, il a bien dû leur raconter ce qui lui était arrivé. Ils devaient être super contents, eux, de voir leur fils dans cet état. Mais Jean nous dit pourquoi il reste évasif. La peur d'être exclu est la plus forte. Ils ne se sont pas mouillés en faisant une analyse à propos de Jésus. La terreur installée par les pharisiens a bien fonctionné. Quand on a vu toutes ces réactions, on peut voir qu'il y a plusieurs logiques qui se cachent derrière. Face à un événement exceptionnel, incroyable, qu'a été ce miracle, on peut voir qu'en plus des réactions, eh bien, il y a donc des logiques. La première logique, la première catégorie de logique, c'est la logique rassurante mais superficielle. Il y a deux méthodes dans cette logique rassurante. La méthode du refus de la réalité, c'est la méthode des passants, des voisins, et la méthode tête dans le sable, la méthode des parents. La méthode refus de la réalité, c'est « mais non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble, un aveugle qui est aveugle de naissance, ne peut pas recouvrer la vue comme ça en 5 minutes, c'est pas possible, donc ça peut pas être lui. Vous vous rendez compte, si ce que dit l'aveugle, l'ex-aveugle est vrai, ça voudrait dire que Jésus est le Messie. Mais non, non, non. Aujourd'hui, c'est sabbat, alors on va amener ce soi-disant miraculé auprès des pharisiens qui vont nous confirmer que ce Jésus est un pécheur, un gars qui n'observe pas la loi. Comme ça, on ne sera pas dérangé par ce Jésus qui fait des miracles beaucoup trop extraordinaires. On refuse la réalité. L'autre méthode rassurante mais superficielle, donc c'est la méthode tête dans le sable. Oui, c'est notre fils, né aveugle, et maintenant il voit. Voilà, bon bah d'ailleurs, j'ai de la vaisselle à faire, donc arrêtez de me poser des questions, j'ai autre chose à faire. On peut imaginer la mère qui se décharge comme ça, qui fuit à l'anglaise. Elle est marrante, cette réaction des parents. On ne sait pas ce qu'ils ont pensé de Jésus, du coup. Si ça se trouve, ils n'ont rien pensé du tout. Vous savez, le genre de réaction qui consiste à reconnaître les faits, mais à ne surtout pas en tirer de conclusions trop hâtives ou dérangeantes. C'est la méthode tête dans le sable. Derrière donc cette première logique rassurante mais superficielle, nous avons la logique pharisaïque, la logique des pharisiens. Et cette logique, elle est fondée sur le respect du sabbat. Jésus viole le sabbat en guérissant cet homme. C'est ce qu'ils se disent en premier. Alors ça, c'est leur logique à eux, hein, parce que normalement, le sabbat interdisait de travailler. Est-ce que faire de la boue en appliquer sur les yeux d'un aveugle et faire un miracle, est-ce que c'est du travail? Ça, c'est un grand débat. Mais eux, les pharisiens, pensent que c'est du travail, et donc on n'a pas le droit de le faire, et donc on viole la loi de Dieu. Ils ne se fondaient pas sur la loi de Moïse pour affirmer cela, ils se fondaient sur ce qu'on appelle la tradition des ancêtres ou la loi sur les lèvres, qui seraient des paroles que Moïse aurait prononcées mais qui n'avaient pas été mises par écrit mais qui auraient été transmises oralement. En tout cas, même si elle tient grâce à des règles qu'ils ont eux-mêmes mises en œuvre, la logique des pharisiens est implacable. Jésus guérit le jour du sabbat. Donc, s'il viole le sabbat, il est pécheur. Et s'il est pécheur, il ne peut pas faire de miracle. Et s'il ne peut pas faire de miracle, il ne peut pas avoir guéri l'aveugle. Donc, si le garçon voit, c'est qu'il n'a jamais été aveugle. Logique implacable, logique qui se tient. Le soi-disant miraculé ne peut pas en être un, puisque Jésus n'est pas le Messie, puisqu'il est pécheur. Je vous fais la logique dans l'autre sens. Donc, cette guérison doit être un bobard inventé par des villageois sans éducation. Cette logique tient debout. Elle pourrait être valable. Mais nous avons la dernière logique dans ce passage, c'est la logique du miraculé, de l'ex-aveugle. Et elle aussi, elle tient debout. Et j'aime beaucoup sa réaction à ce miraculé. Il raconte 5 fois la même histoire. Il en tire des conclusions très logiques et tient même tête aux pharisiens avec des questions impertinentes du genre « Est-ce que vous auriez aussi envie d'être ses disciples ?» En fait, cet ex-aveugle ne comprend pas pourquoi les pharisiens continuent de se poser des questions à propos de ce miracle. C'est très simple, ça tombe sous le sens. Personne n'a jamais guéri un aveugle de naissance. Alors si Jésus arrive à le faire, c'est qu'il doit avoir les faveurs de Dieu. Donc il est au moins un prophète, voire plus. Et puis, notre garçon mouche littéralement les pharisiens en leur disant que c'est un peu étonnant que des spécialistes comme eux ne sachent pas qui est Jésus. Jésus est forcément quelqu'un d'extraordinaire vu ce qu'il arrive à faire. Maintenant, il voit. Ça, il le répète toujours. C'est la seule chose qu'il sait. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Mais lui, il voit aussi la réalité spirituelle qui se cache derrière la réalité du miracle. Si Jésus dit qu'il est plus qu'un prophète, qu'il est le Fils de Dieu, alors il faut l'adorer. Et c'est ce qu'il finit par faire à la fin du passage. La logique du miraculé est elle aussi implacable. Du coup, nous sommes en présence de 2 analyses du même événement. Mais je pense que cet épisode de l'Évangile peut nous servir à tirer quelques conclusions pour nous aujourd'hui. Et surtout, discuter de certains arguments que nous pouvons rencontrer. Le premier argument que nous pouvons rencontrer, c'est que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. C'est quelque chose que nous entendons très souvent dans les médias et autour de nous. Dire cela, dire chacun sa vérité, fait à mon avis partie de la logique rassurante dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle calme la crainte, mais c'est un peu court, un peu mou, un peu tiède, pas très courageux. « Allez, c'est bon, tout le monde a raison !» Non. S'il est possible que chacun ait son avis, il n'est pas possible que deux positions aussi antagonistes décrivent la même vérité, la même réalité. Ce qui s'est passé, c'est passé. Peu importe ce qu'on en dit, peu importe comment on l'analyse, peu importe que ce soit dérangeant, ça s'est passé comme ça s'est passé. Les différentes visions devant cet événement miraculeux ne changent rien à ce qui s'est passé en réalité. On peut refuser, on peut contester, refouler, accepter, enjoliver, modifier, mythifier l'événement, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas dire que les pharisiens et le miraculé ont chacun leur vérité. Ils ont chacun leur logique, oui, mais la vérité parle de ce qui est. C'est une arme très pratique de dire que chacun a sa vérité, que chacun a le droit de penser ce qu'il veut du moment que ça lui fait du bien. Mais il faut reconnaître que ça noie le poisson. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Bien sûr que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, quand plusieurs personnes ne sont pas d'accord. Mais ce n'est pas le sujet. La question est de savoir qui a raison ou qui se rapproche le plus de la vérité. Et cette vérité, elle existe. Il ne faut donc pas niveler les avis divergents. Il ne faut pas uniformiser les points de vue en prétextant la liberté de conscience. Il faut se positionner. C'est ça qui est difficile, se positionner. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et d'ailleurs, Jésus ne nous laisse pas le choix. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Le fait de ne pas savoir, c'est-à-dire d'être agnostique, le fait d'hésiter, ne va sauver personne. La deuxième phrase que nous rencontrons très souvent, c'est que les miracles n'existent pas. Les miracles n'existent pas. Ce ne sont que des superstitions de gens sous-éduqués. La science a prouvé depuis longtemps que la nature a des lois bien définies. Il doit y avoir une autre explication plus rationnelle devant cet événement apparemment surnaturel. Voilà un peu le genre de réflexion que l'on pourrait entendre aujourd'hui si un miracle se produisait dans un petit village de France. Mais il faut vite démonter ces arguments. Qu'est-ce qu'un miracle ? C'est un événement inattendu, impossible, qui se produit à un moment donné. Il y a donc la norme, autrement dit, les lois physiques de la nature, qui est contrecarrée. Les gens qui croient avoir vu des miracles savent comment se passent les choses d'habitude. Ils connaissent les lois de la physique. Mais là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose d'inhabituel devant leurs yeux. On peut répondre que c'est pas possible. De toute façon, puisque les lois de la nature sont immuables, elles ne peuvent pas être bouleversées. Eh bien moi, je pense que ces lois peuvent être changées par celui qui les a créées, et que la science est totalement incapable de prouver que les miracles ne peuvent se produire. La science est fondée sur l'observation des faits. La science voit que ces faits se répètent et elle énonce des lois. Mais la science ignore si ces lois peuvent être court-circuitées ou non. Et justement, les croyants de pas mal de religions pensent que ces lois ne sont pas si fixes que ça et que Dieu est assez puissant pour les modifier à sa guise. Là encore, deux logiques s'affrontent. Celle qui nie le miraculeux, qu'il exclut de toute hypothèse, un peu comme les pharisiens, hein, qui excluent direct que Jésus puisse être le Messie. Et l'autre logique, celle qui compte le surnaturel, le miraculeux, comme une hypothèse parmi d'autres. Il y a différents points de vue face à un événement. Mais ces points de vue ne sont pas tous si objectifs et honnêtes qu'on pourrait le croire. Et c'est ma dernière partie. Soit on croit en fonction des faits et des preuves, soit on croit en fonction de nos intérêts. Et la question est de savoir si l'on a vraiment réfléchi à nos croyances comme à nos incroyances. On peut se demander si derrière ce rejet du miraculeux et cette adoration de la science, il n'y a pas quelque chose de plus profond, de pas si objectif que ça. Je pense que ce qui est très dérangeant avec cette idée de miracle, c'est que Dieu intervient dans la vie des hommes. Et ça, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme ne le supporte pas. Et si derrière cette volonté de tout rationaliser, il y avait la volonté de tout contrôler, de tout expliquer pour rester maître de tout, pour devenir maître de la création à la place du Créateur. Que ce soit pour les voisins, les pharisiens ou nos contemporains, le problème est toujours le même. Il faut accepter la souveraineté de Dieu sur nos vies. Il faut accepter d'être limité, dépendant. L'ex-aveugle a eu le courage de voir la vérité en face. Il a eu le courage de pousser la logique jusqu'au bout. Il a compris que ce Jésus méritait vraiment la place de Seigneur dans sa vie. On peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas croire. Reste à savoir si ces raisons sont honnêtes, si elles sont le résultat d'une véritable recherche. En deux mots, si l'on a commencé à chercher en ayant déjà une réponse toute prête, ou si l'on a réellement voulu comprendre, quitte à être dérangé dans sa petite vie. Avec ce passage, on peut voir que même avec un signe miraculeux, les sceptiques ne croient pas. Les miracles de Jésus n'ont jamais été des générateurs de foi, mais des révélateurs de foi. Autrement dit, les miracles ont fait grandir la foi de ceux qui acceptaient ou qui n'excluaient pas d'être soumis à Dieu, mais ils ont endurci le cœur de ceux qui refusaient toute autorité divine sur leur vie. Alors pour conclure, un proverbe biblique. Vous pensez que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui juge vos motivations. La vie avec Dieu et la vie sans Dieu entraînent des logiques de vie très différentes. On attend des preuves pour croire en Dieu, comme la personne que je décrivais au départ. On attend des preuves, alors qu'on ne veut pas voir celles qui sont sous nos yeux. Alors finalement, peut-être que la demande de preuves cache plutôt une demande de non-preuves. On demande à voir alors qu'on ferme les yeux. On a pu voir avec ce passage que l'on a toujours la possibilité de se défiler face à un événement qui prouve la puissance de Jésus. N'empêche que cette puissance, elle est là. Et que si l'on passe à côté, on passe à côté de la vérité. On passe à côté de la vraie vie. Alors, pour ceux qui sont autour de vous et qui affirment honnêtement, si Dieu me prouvait qu'il existait, s'il se révélait à moi, je croirais en lui. Eh bien, je peux vous conseiller de leur dire, priez Dieu pour qu'il vous fasse signe, et il le fera. Mais je tiens à vous prévenir, pour ceux qui sont autour de vous, qui ne veulent pas croire, vous pouvez laisser tomber. Même si Jésus leur apparaissait en personne, ils ne croiraient pas.